Le titre de ce message, Qui enverrai-je, dit l'Éternel? Qui enverrai-je, dit l'Éternel? J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le Seigneur voulait faire passer un message au peuple d'Israël, ce peuple qui vivait dans la corruption et dont les lèvres étaient impures. L'Éternel cherchait un homme qui était prêt à faire sa volonté. Il cherchait un homme qui était prêt à faire passer son message. Malheureusement, il ne trouvait personne de disponible. Alors, l'Éternel lança cet appel au peuple, leur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et généralement, quand Dieu lance un appel, il l'accompagne aussi d'un message. Aussi difficile que ça puisse paraître, ce que nous aurons à faire, cela n'élimine pas l'appel que Dieu a sur nos vies. Même si nous voyons que c'est difficile, même si nous voyons que ça nous dépasse, cela ne réduit pas et n'élimine pas l'appel sur nos vies. Le message d'un appel peut venir sous plusieurs formes. Le message peut venir de quelqu'un. Exemple, le messager qui a transmis le message au pasteur lui disant que l'église sera grandiose, qu'il y aura une église grandiose. On peut voir, chaque personne ici présente, que la parole était vivante, que ce que la dame avait dit portait le message de Dieu parce que ça a été accompli, chose dite, chose faite. Et d'autres choses peuvent nous pousser à expérimenter un message de Dieu. Il peut venir une expérience dans vos vies où, qui change tout. Exemple, un accident de voiture. Quelqu'un après un accident de voiture ne verra plus la vie de la même façon. Et Dieu pourra utiliser ce même événement pour lui transmettre un message. Et parfois, l'appel de Dieu ou le message de Dieu peut venir juste et simplement sur le cœur. Il peut vous venir sur le cœur de faire quelque chose. Quelque chose inspiré de Dieu et que tu ne trouveras juste dans ton cœur. Exemple, le simple fait d'appeler quelqu'un, le simple fait de prier avec quelqu'un peut être un message, peut être un appel que Dieu a lancé dans ton cœur à toi. Et pour les jeunes, souvent, on ne sait pas trop comment répondre et dealer avec tout ça. Juste le fait d'ouvrir la porte pour une personne âgée peut être un message de Dieu parce que tu ne sais pas cette personne si elle serait capable d'ouvrir cette porte. Mais toi, en tant que jeune, tu peux dire, « Oh, j'ai sur le cœur d'ouvrir la porte. » On peut le considérer aussi comme un message. Dieu t'a placé justement à ce moment-là pour ouvrir la porte. On peut comprendre que un message et un appel n'est pas quelque chose de fixe. Ça varie d'une personne à une autre et toutes les personnes ne sont pas appelées au même message et au même appel. Mais il faut tout de même être prêt pour intercepter les messages de Dieu. Amen. Il faut se tenir prêt pour intercepter les messages de Dieu. Bien que des fois, lorsque nous faisons la sourde oreille, Dieu peut aller très loin. Dieu peut aller très loin pour te convaincre qu'il a un appel sur ta vie. Il peut aller très loin pour te sortir de là où tu es. Il peut aller très loin pour te prouver qu'il est Dieu. Amen. Et si on essaie de comprendre l'appel du message qui disait « Qui enverrai-je? » On peut trouver un élément de réponse au verset 5 qui dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Pourquoi Dieu a jugé bon de lancer cet appel à ce peuple? Bien, justement, parce que ce peuple vivait dans l'impudicité et il a dit clairement que Ésaü lui-même, il dit, « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Telle était la réalité Et Dieu qui a tout créé, Dieu qui a créé ce peuple, qui a créé la nature, qui a créé toutes choses, personne, il a trouvé personne pour lui transmettre un message. Il a trouvé personne pour dire aux frères, écoute, faisons le bien, arrêtons de faire le mal. Parce que tout le monde, ils avaient légalisé le mal dans ce temps-là. Ils avaient légalisé l'impudicité dans ce temps-là. Et c'est pourquoi que Dieu lui eut à dire, qui enverrai-je? Maintenant, au milieu d'un peuple impur, comment entendre la voix de Dieu? Au milieu d'un peuple où le mal fait rage, au milieu d'un peuple où ceux qui font le bien sont passés pour les méchants, puis ceux qui font le mal sont passés pour des héros ou des présidents ou des personnes en fonction. Comment faire pour entendre l'appel de Dieu? Comment faire? Premièrement, il faut se préparer pour l'appel. Il faut se préparer pour l'appel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais vous entendre un peu plus fort que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, il faut se préparer pour l'appel. Et comment se préparer? C'est de faire comme Ésaïe. Ésaïe était parmi ce peuple. Ésaïe était un jeune parmi ce peuple impur. Et Ésaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au fond de son cœur. Il n'a pas regardé ce que les autres faisaient. Il n'a pas regardé sur ce que les autres faisaient de mal. Il n'a pas regardé sur les valeurs qui étaient perdues. Il n'a pas regardé sur la méchanceté des hommes. Mais il a regardé dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Telle fut la première chose qu'Ésaïe a faite. Il a regardé au fond de lui. Il a pris conscience. Il a fait une sorte d'introspection pour voir qu'est-ce qu'il y a de mal, qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans sa vie à lui. Et c'est en faisant ça, en reconnaissant et en admettant que dans sa vie, il avait des choses impures, et c'est comme ça qu'il a pu entendre. Il a pu entendre la voix de l'Éternel qui dit, « Qui enverrai-je? » Mais s'il était comme les autres, ignorant les choses de l'Évangile, ignorant la présence de Dieu, il n'aurait pas entendu cet appel non plus. Donc, pour répondre à la question, comment entendre la voix de Dieu au milieu d'une société impure? C'est vraiment de se préparer soi-même, de se dire, est-ce que moi, je suis mieux? En quoi je suis mieux que les autres qui font le mal? En quoi je peux être mieux par rapport à eux autres qui ne veulent pas prendre cette conscience-là, cette prise de conscience? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Faudrait-il pas faire comme Ésaïe pour dire, Seigneur, moi, j'ai X, Y, Z choses d'impures dans ma vie. Et avec cette prise de conscience, on va voir que le Seigneur, lui, il saura faire le nécessaire. Et aujourd'hui encore dans notre société, aujourd'hui encore dans notre génération, les mêmes choses se reproduisent autour de nous. Mais nous autres, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Il est dit, 1 Corinthiens 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, on peut faire ci. Oui, on peut faire ça. Oui, on peut se donner à ci ou se donner à ça. Mais est-ce que c'est utile? » Ce sont des questions que nous devons nous poser. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Comment faire la différence de cette société impure? Mais c'est vraiment d'analyser sa vie et de se remettre à Dieu. Et pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire cette prise de conscience, Ésaïe 5, verset 20, il est dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal le bien, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Qu'est-ce qui est réservé pour ces gens-là? Du malheur. Mais nous autres, en tant que chrétiens, nous avons le choix. Comme l'a si bien dit pasteur tantôt, nous avons entre nos mains la destinée de nos vies. Et qu'est-ce qu'on choisit? Et le choix peut être fait de notre vivant, pas après. Et toute personne ici présente, on le sait. J'ai lu une phrase, ce n'est pas la meilleure, mais j'ai lu une phrase une fois qui m'a fait rire, qui a dit, il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux, de toute façon, on ne va pas s'en sortir vivant. Tout le monde ici, on sait qu'on va mourir un jour. Quand? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, ça va arriver. Et la destinée de nos vies est entre nos mains de notre vivant. Et il est clairement dit, malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Je ne connais personne qui aime le malheur. Le malheur, c'est comme le mal. Dans le malheur, on voit mal et puis on voit heure. Ce sont des heures qui vont mal se passer. Un malheur. Mais c'est qui aime ça? Personne. Alors, qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui? Un choix s'impose. Qu'est-ce que vous décidez? De vivre et dire, tout est permis et tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. De prendre le temps d'analyser sa vie et de voir quel message Dieu a pour toi ou de t'exposer à ce malheur-là. D'ignorer que le mal, ignorer le bien, les gens qui agissent comme ça, ils sont voués à un malheur. Et notre société, c'est quasiment ça qu'ils enseignent. Ils t'enseignent à voir que, écoute, oui, ça c'était ça le mal, mais en fin de compte, on l'a changé en bien. Puis écoute, ça, il était en arrière, on va le mettre en avant. Puis de jour en jour, on perd nos valeurs. De jour en jour, l'homme devient méchant. Et il est dit dans les derniers temps, les gens vont être fanfarons, cupides, aimant l'argent, faisant ce qui est mal. Mais nous sommes obligés de vivre avec ces gens-là. Et nous devons faire la différence. Amen. Nous devons faire la différence comme Ésaïe a pu faire la différence. Malgré le peuple était impur, malgré le peuple était cupide. Mais Ésaïe a su faire la différence. Comment il a pu entendre la voix de l'Éternel au milieu de ce peuple? Mais en disant, Seigneur, je suis un homme. Il a regardé sur sa vie. Il n'a pas regardé sur la vie de l'autre. Il n'a pas regardé sur la vie du peuple. Il n'a pas regardé sur la vie des frères et des sœurs et de ci et de ça. Il a regardé sur sa vie. Et c'est un appel pour chaque personne ici présente ce matin. Regarde dans ta vie, pas la vie du voisin. Dans ma vie, qu'est-ce que je me reproche? Qu'est-ce que qui ne fait pas plaisir au Seigneur? Parce que Dieu, lui, il juge les gens. Et il les juge avec sévérité des fois. Et un peu plus loin, il est dit, oui, qui enverrai-je? Il est vrai que Ésaïe a répondu, mais comme je l'avais dit, il y avait un message à l'appel. Il y avait un message à l'appel d'Ésaïe. Et le message qu'Ésaïe a aussi difficile que ça pouvait être, le message que Ésaïe devait prononcer au peuple, c'était le suivant. Si vous ne vous conformez pas, il est dit au verset 9, il dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Ce n'est pas parce que Dieu voulait cacher la vérité aux gens, mais c'est parce que leur cœur était devenu tellement impur qu'à un moment donné, il n'y a plus de vérité pour eux. Il n'y a plus de vérité. Et les gens qui choisissent de vivre dans l'impudicité, les gens qui choisissent ce monde de vie, Dieu a aussi un plan pour eux autres. Et c'est quoi le plan? Il dit, un peu plus loin au verset 11, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce qu'il va y avoir un changement? Quand est-ce que les gens, les choses vont changer? » Qu'est-ce que le Seigneur eut à répondre? Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, jusqu'à ce qu'ils soient privés d'habitants. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela sous-entend que tant et aussi longtemps que les gens vont vivre dans l'impudicité, tant et aussi longtemps que les gens vont vivre loin de la face de Dieu, eh bien Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fera? Il les détruira. Il les détruira. Mais nous autres, de notre vivant aujourd'hui, de quel camp ou dans quel camp nous voulons nous mettre? Dans le camp de ceux qui vont être détruits ou dans le camp de ceux qui vont prendre conscience, comme Esaïe, pour entendre l'appel de Dieu, pour entendre le message que Dieu a pour chaque personne? Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Ce matin, Dieu a besoin d'une réponse de la part de chaque personne ici présente. Dieu attend une réponse de la part de chaque personne ici présente. Es-tu prêt à aller pour lui? Chaque personne ici présente. Es-tu prêt à venir vers lui? Es-tu prêt à vivre pour lui? Qu'est-ce que tu choisis? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un depuis si longtemps entend la voix du Seigneur, mais reste indifférent. Je parle à quelqu'un que ça fait longtemps que le Seigneur attend pour lui délivrer un message. Mais s'il y a quelqu'un dans son cœur porteur d'un message, mais il est clairement dit dans Esaïe, qu'est-ce qui vous attend quand vous ignorez les messages et l'appel de Dieu? Aujourd'hui, le cinquième dimanche du mois, c'est le dimanche de l'évangélisation. C'est le dimanche où on doit parler de la parole de Dieu et évangéliser, exhorter les gens. Et aujourd'hui, nous devons réfléchir en tant que chrétiens. Est-ce que j'agis en tant qu'Esaïe ou j'agis comme le peuple? Mais ça, je ne le saurais pas. Mais c'est le temps ce matin que chaque personne examine sa vie parce que Dieu attend une réponse de ta part. Dieu attend que chaque personne réagisse. Et souvent, il y a des événements qui nous empêchent de nous dépouiller de tout ce qu'il y a de mal dans nos vies. Que ce soit le stress de la vie, que ce soit le travail qui nous prend beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est une raison pour s'éloigner de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que c'est une raison pour ne pas se dépouiller du vieil homme? Est-ce que c'est une raison pour ne pas écouter l'appel de Dieu? Tandis que Dieu, lui, il est clair, il dit, « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? » Et il s'adresse au peuple. Et nous autres, nous avons une réponse à lui donner. Mais il y a un troisième personnage qui est l'adversaire. L'adversaire, lui, il est fort sur son travail. Lui, c'est un 24-7. Il travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7 contre chaque personne ici présente. Il travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7, contre chaque personne ici présent. Il va mettre des embûches pour t'éviter à te dépouiller de ce vieil homme. Il va mettre des embûches. Il va mettre la timidité pour t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Il va mettre des difficultés pour t'empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Comme le pasteur l'a dit, la destinée qui est entre mes mains, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me range du côté des perdants ou je me range du côté des gagnants? C'est la réponse que tu dois donner à Dieu et aussi la réponse que tu dois donner au diable pour lui dire n'importe quoi que tu vas faire au nom de l'Éternel, je n'ai pas peur. Au nom de l'Éternel, j'avancerai. Au nom de l'Éternel, je me dépouillerai de ce vieil homme. Au nom de l'Éternel, j'entendrai son message. Au nom de l'Éternel, je répondrai à son appel. L'appel de Dieu n'est pas seulement d'aller prendre des cours de théologie pour prêcher ou pour chanter. L'appel de Dieu peut être mon frère qui est à côté de moi, ma famille en Haïti ou n'importe qui. Dieu va te révéler comme il l'a révélé à Esaïe. Mais la réponse est entre nos mains. Et dans le cadre du message, on peut comprendre aussi que à trop résister à Dieu, on finit par tomber dans une forme de confusion. Il dit, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Pourquoi, à force de résister à cet appel, à force de fuir la face de Dieu, à force de s'éloigner, à force de ne pas répondre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont entendre et ne comprendront rien. Et c'est là que la confusion s'installe. C'est là que tu ne comprendras pas ce qui se passe. C'est là que tu ne sauras pas où aller. C'est là que tout ira mal dans ta vie. Et c'est là aussi que tu vas perdre le contrôle en t'éloignant de la face de Dieu, en t'éloignant de l'appel de Dieu. En t'éloignant de l'appel de Dieu, tu t'en vas vers la confusion. Ce matin, le but du message est de vous exhorter en tant que chrétien. De quel camp vous êtes? Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez de faire comme Ésaïe? De rentrer en dedans de vous? De trouver qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cette confusion, Seigneur? Je te sers, je viens à l'église, je prie, je fais tout. Mais pourquoi cette confusion? Mais regarde s'il y a quelque part dans ta vie, il n'y a pas un appel. Regarde si à quelque part, Dieu ne te demande pas de faire quelque chose de précis dans ton cœur, mais tu fais comme le peuple, tu t'en détournes. Et aujourd'hui, jour d'évangélisation, dimanche d'évangélisation, c'est la journée où tu dois répondre à Dieu. C'est la journée où il faut prendre conscience de l'enjeu. Il faut prendre conscience de dire, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la confusion. Seigneur, je veux voir pour comprendre. Je ne veux pas voir pour ne pas comprendre. Seigneur, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça cesse. Tout ce que je vis dans ma vie, tout est à l'envers. Je suis en train de perdre le contrôle. Mais pourquoi est-ce que je perds le contrôle? Regarde au fond de toi. Tu trouveras la réponse. Tandis que le peuple, il bambochait. Mais il y avait un malheur qui les attendait. Dieu allait les raser jusqu'au dernier, parce qu'un peu plus loin dans le verset, il dit, « S'il reste encore un dixième d'habitants, ils seront à leur tour anéantis. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Mais à tous ceux qui s'éloignent, à tous ceux qui choisissent de rester dans l'ignorance de l'appel de Dieu, dans l'ignorance du message de Dieu, mais verset 13, il est dit, « S'il en reste encore un dixième des habitants, ils seront anéantis. » Et aujourd'hui, Dieu n'est pas un Dieu qui a une colère qui subsiste à toujours. Dieu, il ne nous laisse pas tout seul. Il ne nous abandonne pas. Dieu est un Dieu d'espoir. À quelque part, le psaume 30, verset 5, il dit, « Quand sa colère dure un instant, mais sa grâce toute une vie. » Sa colère dure un instant, mais sa grâce... Sa colère dure un instant, mais sa grâce, où voulez-vous être? Dans sa colère ou dans sa grâce? Où? Comment? Je ne vous entends pas. Où est-ce que vous voulez vous situer? Dans la colère de Dieu ou dans sa grâce? Je veux vous entendre tous. Dans sa grâce ou? Plus fort? C'est bien. Il faut choisir comme Ésaïe de se positionner dans la grâce de l'Éternel. Mais comment te positionner? Mais c'est vraiment en prenant conscience de ta vie à toi. De prendre contrôle de ta destinée. Dieu t'a donné une vie à toi, propre à toi. Ce n'est pas au diable de le destiner. La destinée n'est pas revenue au diable. Elle te revient à de droit. Dieu te l'a donné. Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère. Quand tu n'étais qu'une masse informe, il avait un projet pour toi. Il avait un plan pour toi. Mais pourquoi livrer ta vie au service du malin qui te guide comme bon lui semble, te porter dans la confusion, sachant que la confusion va t'emmener tout droit vers la destruction. Mais si tu te positionnes dans la grâce de l'Éternel, il saura te garder toute ta vie. Amen. Il saura te garder toute ta vie. Et les deux seules questions à se poser aujourd'hui, veux-tu faire partie d'une sainte prospérité ou tu veux faire partie du peuple incrédule? Prenez 2 secondes pour réfléchir. Parce que dans le dernier verset, il est dit qu'une sainte prospérité prendra naissance. Après tant de malheurs, après tant de rage pour purifier le peuple, une sainte prospérité prendra naissance. une sainte prospérité prendra naissance. Parce que Dieu, lui, il a tout créé. Il a tout donné. Mais ce serait vraiment, comment je peux dire, il faut être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Mais quand nous marchons pas dans la reconnaissance, quand nous nous éloignons de celui qui a tout donné, c'est comme des parents qui, vous avez tout investi pour vos enfants et un jour, c'est cet enfant qui dit, mais là, papa, il faut que j'aille dans mon club parce que si tu es malade, c'est ton problème. Il faut que j'aille fêter, si tu es malade, c'est ton problème. Si tu as des besoins, c'est tes affaires, moi, je dois aller prendre mon plaisir. Mais Dieu, lui, il a tout créé, il a tout donné. Mais nous autres, en tant qu'enfants, comment réagissons-nous? Quelle position voudrions-nous prendre? La question est là ce matin. Dimanche d'évangélisation, commençons au milieu de nous. Préparons nos cœurs comme Ésaïe l'a fait. Regardons au fond de nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Préparons-nous avant d'aller chercher les autres. Préparons-nous à entendre l'appel de Dieu pour savoir exactement qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et ensuite, aller livrer le message comme Ésaïe l'a fait. La question de ce matin, que choisissez-vous? Que choisissez-vous? Les épreuves seront là. Ils ont été et ils seront. Est-ce qu'à cause des épreuves, on va choisir le mauvais camp? Non. Quand il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite. Les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés, l'épreuve de votre poids produit la patience. Souvent, on prie pour la patience. Je veux de la patience, je veux de la patience. Mais tu souffres. Souffre. Tu veux de la patience? Souffre. Car l'épreuve de votre foi produira la patience. Ça veut dire que les épreuves ne devraient pas te faire choisir le mauvais camp. Tu ne dois pas choisir le mauvais camp à partir des épreuves ou à cause des épreuves. Et des fois, les gens, quand ça va trop bien dans nos vies, on tombe dans une zone de confort. Oh, ça va trop bien, puis je ne pense pas que je vais prier ce matin. C'est une zone de confort qui peut t'emmener dans la même direction que ce peuple incrédule. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Si ce n'est pas les problèmes, c'est parce que tu es trop bien. Mais aucun des deux ne mérite que tu choisisses le mauvais camp. Il ne faut pas rester dans cette zone de confort, parce que si tu restes trop souvent dans cette zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans un profond sommeil spirituel. Et il sera trop tard quand tu vas te réveiller. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Est-ce que tu choisis de faire cette introspection-là, de voir au fond de toi qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je dois changer en moi, qu'est-ce que Dieu ne veut pas de moi. Et ensuite, te remettre à Dieu pour qu'il te purifie, pour qu'il te sanctifie, parce que ce travail, il est le seul à le faire. Mais ton travail à toi, tu dois le faire. Ton travail à toi, tu dois le faire. Et le travail, c'est de trouver en soi qu'est-ce qui ne marche pas avec Dieu et de résoudre le problème avec Dieu. C'est là le but, le message du dimanche d'évangélisation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie que tu dois arranger avec Dieu? Et c'est comme ça que tu sauras entendre la voix de Dieu au milieu de cette génération où on vit, où tout semble être à l'envers, au milieu de ce peuple, des décisions que prennent les gouvernements qu'on ne comprend même pas, des choses qui arrivent qu'on n'espérait même pas, qu'on n'osait même pas imaginer. Mais comment entendre la voix de Dieu au milieu de tout ça? Comment entendre la voix de Dieu? Mais c'est en te dépouillant du vieil homme, te dépouiller de ce qui est mauvais dans ta vie, des choses que Dieu ne prenne pas plaisir. Je ne sais pas ce que c'est. Le but n'est pas de pointer personne du doigt. D'abord, tu dois travailler sur toi-même. Personne ne le saura. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Personne ne le saura. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire à quelqu'un. Mais c'est quelque chose que tu vas confier à ton Dieu. Alors, pourquoi pas? Si c'est ça qu'il faut faire pour choisir la grâce de l'Éternel, alors pourquoi pas? Si c'est ça qu'il faut faire pour se positionner dans le camp des gagnants, alors pourquoi pas? Regarde au fond de toi. Arrange ce qui ne va pas dans ta vie pour ne pas subir cette confusion, pour ne pas te diriger vers cette destruction. Mais fais comme Ésaïe. Analyse ta vie. Arrange tes affaires avec Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire dans ce dimanche d'évangélisation. Et Dieu, lui, il saura faire le reste. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui, ça fait longtemps que vous venez à l'église, dimanche après dimanche, ce n'est pas ça qui va te mettre dans le bon camp. Malheureusement, ce ne sera pas ça. Mais quelle décision que tu vas prendre, parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église. Demain, il sera trop tard. Ce soir, il peut être trop tard. Tu ne sais pas comment la journée va se terminer. Toi, ça fait longtemps que tu cherches cette paix. Toi, ça fait longtemps que sur ta vie pèse un fardeau qui te dépasse. Toi, ça fait longtemps que Dieu te parle, qui n'a pas su entendre la voix de Dieu au milieu de ce peuple impur. Aujourd'hui, tu peux t'en délibérer. Tu peux te libérer aujourd'hui. Et pour conclure notre message, je voudrais inviter l'Assemblée tout entière dans une prière commune. Dans une prière commune et que chaque personne regarde dans sa vie. Qu'est-ce que tu dois changer? Arrêtez de regarder sur l'autre. Arrêtez de regarder sur l'autre. Regarde sur toi-même. Qu'est-ce que moi, j'ai à changer? Qu'est-ce que moi, j'ai à travailler sur ma vie? C'est cette prière que je voudrais que l'Assemblée fasse ensemble. Et tantôt, on va se quitter. Mais vous, qui ne connaissez pas encore le Seigneur, qu'est-ce que vous choisissez? Aimez-vous le malheur? C'est bien, c'est bien. Le malheur n'est pas fait pour toi. Pourquoi? Parce que tu es le Fils de Dieu, tu as été choisi. Tu as bien fait de répondre. Le malheur n'est pas fait pour toi. Et le malheur n'est pas fait pour personne ici présent. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, eh bien, malheureusement, tu seras du mauvais côté. Pourquoi? Parce que Romains 10, verset 9, le dernier verset que je vais prendre, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il ne suffit pas de le savoir, il suffit de le confesser. Et c'est comme ça que tu vas changer de camp. Toi, que ça fait longtemps que tu viens à l'église, toi, ça fait longtemps que tu veux trouver cette paix, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Tandis que l'Assemblée va se lever pour une prière commune, pour vraiment se purifier, se débarrasser de ce vieil homme. Si, dans ton cœur, tu sens l'appel de venir vers Dieu, si tu sens l'appel de te débarrasser de ce poids qui te pèse depuis trop longtemps, il y a des gens prédisposés qui sont prêts à t'aider. À t'aider à te confesser, à confesser de ta bouche ce que le Seigneur réclame. Ça va être le premier pas dans la bonne direction. Tandis que j'invite l'Assemblée à se lever pour une prière commune, j'inviterai notre frère David à jouer un peu de pour relaxer l'Assemblée. Levons-nous pour vraiment analyser nos vies et faire cette prière de confession, cette prière de consécration pour se dépouiller avant même d'aller trouver les autres. Il y a des frères comme notre frère Dupont qui est à notre côté. Frère Dupont, peux-tu s'il vous plaît avancer en avant? Et si quelqu'un sent sur son cœur le besoin de confesser de sa bouche quelque chose, il y a notre frère ici présent. N'hésite pas à te lever. N'hésite pas à te lever, venir trouver ton frère. Il y a un malheur qui attend au bout du tunnel. Mais change de camp, de ton vivant. Tu as l'opportunité aujourd'hui. N'hésitez pas à avancer. Élevons nos cœurs dans la prière. Afin que Dieu vraiment nous aide à nous dépouiller de ce vieil homme. Afin que Dieu vraiment nous aide à répondre, à entendre son appel. Élevons nos cœurs et prions Dieu pour cette prière de confession. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Trois-Fois-Saint, toi qui as tout créé, toi qui as tout donné jusqu'à donner ton Fils sur le bois du calvaire, nous voici, Père éternel, avec nos vies étalées devant toi. Nos vies telles que nous sommes, quand tu nous acceptes telles que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'avoir un diplôme avant de venir vers toi. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'université avant de te connaître. Nous voulons, comme nous sommes, venir vers toi. Nous ne voulons pas, Père éternel, être victimes de ce malheur qui tente sur la vie de ce peuple. Mais nous voulons faire comme Esaïe, cher Seigneur, de regarder dans nos cœurs, regarder dans nos âmes pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
et arranger nos affaires avec toi avant qu'il ne soit trop tard. Et à ceux et celles dans l'assemblée qui résistent à l'appel que tu as sur leur vie, à l'appel de confesser de leur bouche, Père éternel, chasse cet esprit de timidité et permets-les de venir en avant, Père éternel, de venir à toi. Ce ne sera pas vers les hommes qu'ils vont venir, mais ils vont venir vers toi. Permets-les, Père éternel, de se libérer de ce lourd fardeau qu'ils traînent depuis tant d'années. Parle leur cœur, Père éternel. Parle en leur cœur. Touche leurs âmes, Père éternel. Et si, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas s'avancer, mais fais en sorte qu'un jour, qu'ils prennent conscience. Qu'ils prennent conscience qu'un jour, il peut être trop tard. Et pourquoi pas aujourd'hui? Nous nous élevons entre tes mains, Père éternel. Nous regardons vers toi et nous crions au milieu de ce peuple impur, cher Seigneur. Descends sur nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, cher Seigneur, en cette présente minute, cher Seigneur. Échange nos vies. Éloigne la confusion de nous, Père éternel. Éloigne-nous, Père éternel, et fais en sorte que nous voyons et que nous comprenons. Fais en sorte que nous parlions et que ce que nous aurons à dire fasse de l'impact sur le peuple, Père éternel. Tu nous as envoyés pour évangéliser. Et donne-nous ce qu'il nous faut, Père éternel. Donne-nous ton esprit afin d'aller, aller faire des disciples comme tu l'as demandé. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas saints. Et moi, le premier, je ne le suis pas. Et si je te prie ainsi, Père éternel, pas parce que je suis bon ni digne, mais je te prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous.